Le dîner acheva de me faire perdre la tête. J'étais à côté d'elle et ma main sans cesse rencontrait sa main sous la nappe. Mon pied pressait son pied, nos regards se joignaient, se mêlaient. On fit ensuite un tour au clair de lune et je lui murmurai dans l'âme toutes les tendresses qui me montaient du cœur. Je la tenais serrée contre moi, l'embrassant à tout moment, mouillant mes lèvres aux siennes. Devant nous, l'oncle et Rivet discutaient. Leurs ombres les suivaient gravement sur le sable des chemins. On rentra, et bientôt l'employé du télégraphe apporta une dépêche de la tante, annonçant qu'elle ne reviendrait que le lendemain matin, à 7 heures, par le premier train. L'oncle dit « Eh bien, Henriette, va montrer leur chambre à ces messieurs. » On serra la main du bonhomme et on monta. Elle nous conduisit d'abord dans l'appartement de Rivet et il me souffla dans l'oreille « Pas de danger qu'elle nous ait menés chez toi d'abord. » Puis elle me guida vers mon lit. Dès qu'elle fut seule avec moi, je la saisis de nouveau dans mes bras, tâchant d'affoler sa raison et de culbuter sa résistance. Mais quand elle se sentit tout près de défaillir, elle s'enfuit. Je me glissai entre mes draps, très contrarié, très agité et très penaud, sachant bien que je ne dormirais guère, cherchant quelle maladresse j'avais pu commettre, quand on heurta doucement ma porte. Je demandai « Qui est là ?» Une voix légère répondit « Moi ». Je me vêtis à la hâte. J'ouvris. Elle entra. « J'ai oublié, dit-elle, de vous demander ce que vous prenez le matin. Du chocolat ? Du thé ? Ou du café ?» Je l'avais enlacée impétueusement, la dévorant de caresses, bégayant. « Je prends !» Mais elle me glissa entre les bras, souffla ma lumière et disparut. Je restai seul, furieux, dans l'obscurité, cherchant des allumettes, n'en trouvant pas. J'en découvris enfin et je sortis dans le corridor, à moitié fou, mon bougeoir à la main. Qu'allais-je faire? Je ne raisonnais plus. Je voulais la trouver, je la voulais. Et je fis quelques pas sans réfléchir à rien. Puis je pensai brusquement. Mais si j'entre chez l'oncle, que dirais-je? Et je demeurai immobile, le cerveau vide, le cœur battant. Au bout de plusieurs secondes, la réponse me vint. Parbleu, je dirais que je cherchais la chambre de Rivet pour lui parler d'une chose urgente. Et je me mis à inspecter les portes, m'efforçant de découvrir la sienne, à elle. Mais rien ne pouvait me guider. Au hasard, je pris une clé que je tournai. J'ouvris, j'entrai. Henriette, assise dans son lit, effarée, me regardait. Alors je poussai doucement le verrou, et m'approchant sur la pointe des pieds, je lui dis « J'ai oublié, mademoiselle, de vous demander quelque chose à lire. » Elle se débattait, mais j'ouvris bientôt le livre que je cherchais. Je n'en dirai pas le titre. C'était vraiment le plus merveilleux des romans et le plus divin des poèmes. Une fois tournée la première page, elle me le laissa parcourir à mon gré, et j'en feuilletais tant de chapitres que nos bougies s'usèrent jusqu'au bout. Puis, après l'avoir remerciée, je regagnai à pas de loup ma chambre, quand une main brutale m'arrêta, et une voix, celle de Rivet, me chuchota dans le nez. « Tu n'as donc pas fini d'arranger l'affaire de ce cochon de Morin ?» Dès 7 heures du matin, elle m'apportait elle-même une tasse de chocolat. Je n'en ai jamais bu de pareil. Un chocolat à s'en faire mourir, moelleux, velouté, parfumé, grisant. Je ne pouvais ôter ma bouche des bords délicieux de sa tasse. À peine la jeune fille était-elle sortie, que Rivet entra. Il semblait un peu nerveux, agacé comme un homme qui n'a guère dormi. Il me dit d'un ton maussade « Si tu continues, tu sais, tu finiras par gâter l'affaire de ce cochon de Morin. » À 8 heures, la tante arrivait. La discussion fut courte. Les braves gens retiraient leurs plaintes et je laisserai 500 francs aux pauvres du pays. Alors on voulut nous retenir à passer la journée. On organiserait même une excursion pour aller visiter des ruines. Henriette, derrière le dos de ses parents, me faisait des signes de tête. « Oui, restez donc. » J'acceptais. Mais Rivet s'acharna à s'en aller. Je le pris à part. Je le priai, je le sollicitai. Je lui disais « Voyons, mon petit Rivet, fais cela pour moi. » Mais il semblait exaspéré et me répétait dans la figure « J'en ai assez, entends-tu, de l'affaire de ce cochon de Morin. » Je fus bien contraint de partir aussi. Ce fut un des moments les plus durs de ma vie. J'aurais bien arrangé cette affaire-là pendant toute mon existence. Dans le wagon, après les énergiques et muettes poignées de main des adieux, je dis à Rivet « Tu n'es qu'une brute ». Il répondit « Mon petit, tu commençais à m'agacer bougrement ». En arrivant au bureau du fanal, j'aperçus une foule qui nous attendait. On cria dès qu'on nous vit « Eh bien, avez-vous arrangé l'affaire de ce cochon de Morin ?» Tout La Rochelle en était troublé. Rivet, dont la mauvaise humeur s'était dissipée en route, eut grand-peine à ne pas rire en déclarant « Oui, c'est fait, grâce à la barbe ». Et nous allâmes chez Morin. Il était étendu dans un fauteuil, avec des sinapismes aux jambes et des compresses d'eau froide sur le crâne, défaillant d'angoisse. Et il toussait sans cesse, d'une petite toux d'agonisant, sans qu'on sût d'où lui était venu ce rhume. Sa femme le regardait avec des yeux de tigresse, prête à le dévorer. Dès qu'il nous aperçut, il eut un tremblement qui lui secouait les poignets et les genoux. Je dis « C'est arrangé, salaud, mais ne recommence pas !» Il s'éleva, suffoquant, me prit les mains, les baisa comme celles d'un prince, pleura, faillit perdre connaissance, embrassa Rivet, embrassa même Madame Morin, qui le rejeta d'une poussée dans son fauteuil. Mais il ne se remit jamais de ce coup-là. Son émotion avait été trop brutale. On ne l'appelait plus dans toute la contrée que « ce cochon de Morin », et cette épithète le traversait comme un coup d'épée chaque fois qu'il l'entendait. Quand un voyou dans la rue criait « cochon », il retournait la tête par instinct. Ses amis le criblaient de plaisanteries horribles, lui demandant chaque fois qu'il mangeait du jambon « Est-ce du tien ?» Il mourut 2 ans plus tard. Quant à moi, me présentant à la députation en 1875, j'allais faire une visite intéressée au nouveau notaire de Tousserre, Maître Beloncle. Une grande femme opulente et belle me reçut. « Vous ne me reconnaissez pas ?» dit-elle. Je balbutiai. « Mais non, madame. » « Henriette Bonnel. Ah !» Et je me sentis devenir pâle. Elle semblait parfaitement à son aise et souriait en me regardant. Dès qu'elle m'eut laissée seule avec son mari, il me prit les mains, les serrant à les broyer. « Voici longtemps, cher monsieur, que je veux aller vous voir. Ma femme m'a tant parlé de vous. Je sais, oui, je sais en quelles circonstances douloureuses vous l'avez connue. Je sais aussi comme vous avez été parfait, plein de délicatesse, de tact, de dévouement dans l'affaire. » Il hésita, puis prononça plus bas, comme s'il eût articulé un mot grossier, « dans l'affaire de ce cochon de Morin ».